13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix, je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Omblin. Comment ça va aujourd'hui?
Bonjour, ça
le
va bien Olivier?
A été bon?
Oui, excellent, et le vôtre?
Très bien, très bien. Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, comme vous le savez, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Aujourd'hui débute la 22e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. 2,7 millions de personnes sont aujourd'hui reconnues en situation d'handicap en France, mais toutes n'ont pas le même accès à l'emploi. Difficultés d'intégration, manque d'accessibilité, d'accompagnement. Le taux de chômage des personnes handicapées atteint 19%, soit près du double du taux de chômage national. Pourtant, la loi oblige toutes les entreprises de 20 salariés et plus à employer 6% au moins de personnes handicapées. Mais est-ce vraiment respecté? L'édition 2018 de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées s'intéresse cette année aux femmes en situation de handicap face à l'emploi et aux discriminations qu'elles rencontrent. Le handicap au travail, à quoi êtes-vous confronté? C'est notre sujet aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
On vous écoute comme chaque jour au 39-21, c'est le standard d'Europe 1. 39-21, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1, ou bien sûr via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Ayette au 39-21. Bonjour Ayette.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 26 ans et je vous appelle de Colombes.
De Colombes, donc tout près de Paris, hein, Colombes, hein, c'est ça?
Oui, exactement.
Très bien. Vous êtes atteinte de myopathie. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la myopathie, en quelques mots?
Donc, oui, en fait, la myopathie, pour être au niveau de mon handicap, ça fait que je perds ma force musculaire, mais pas mes rêves. Donc, ça m'empêche pas de faire du parachutisme en compétition, de travailler, d'avoir une vie tout à fait normale, on va dire ça.
D'accord.
Comme ça.
Vous travaillez dans un cabinet d'avocats, où vous faites quoi exactement?
Alors, je suis au comité d'entreprise du cabinet d'avocatage. Et donc, en fait, je suis assistante et je fais, là, dernièrement, on prépare l'arbre de Noël, chèque vacances, chèque cadeau, tout ce qui est lié, en fait, à la vie du comité d'entreprise.
Mmh. J'allais vous demander si vous vous sentiez bien intégré dans l'entreprise. Je sais que c'est le cas. Est-ce que ce handicap a été un frein à votre carrière, selon vous?
Alors, j'ai déjà fait auparavant avant de travailler d'avoir la chance de pouvoir bénéficier de ce poste-là. J'avais déjà postulé au sein de différentes entreprises et de différents ministères. On va dire que le parcours est assez compliqué. Mais aujourd'hui, si j'ai pu avoir ce poste au niveau du comité d'entreprise stage, c'est grâce à des personnes bienveillantes et entre autres grâce à Sazicu, la responsable mission handicap de chez Deloitte, et aussi aux élus du comité d'entreprise qui sont tous bienveillants à mon égard et qui me permet justement de travailler dans les meilleures conditions qui soient.
À quelles difficultés êtes-vous confronté au quotidien dans le cadre de votre travail?
Sur l'accessibilité? Pour me rendre à mon emploi, qui est quand même une chose assez importante. Mmh. Après, dans l'entreprise même, tout est accessible, donc je peux me déplacer de manière autonome. Donc ça, en tout cas, c'est vraiment hyper positif. Au niveau de l'aménagement de poste, j'ai un aménagement spécifique, c'est-à-dire qu'au niveau des horaires, je bénéficie d'un temps partiel qui me permet en fait, moi, en parallèle, de faire toute ma partie soins et aussi tout ce qui est lié à mon sport. Donc voilà.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir atterri dans un cabinet qui avait particulièrement pris conscience qu'il fallait qu'il fallait accueillir les personnes souffrant d'un handicap par rapport à d'autres cabinets qui par exemple n'ont aucune conscience de tout ça? Est-ce que vous vous sentez chanceuse d'avoir atterri là?
Je dirais que au niveau du cabinet, j'ai la réelle sensation, en tout cas, qu'il y a une réelle politique d'intégration des personnes en situation de handicap. Et j'irai plus loin, mon handicap n'a pas été un frein à mon employabilité.
Oui.
Ce qui a pu être le cas au sein d'un autre emploi où je devais faire une prise de poste au sein d'un ministère. Et donc, c'est là où, en fait, le paradoxe, la loi de 2005 oblige à recruter des personnes en situation de handicap, entre parenthèses. Et là, lorsque j'avais postulé au sein de ce fameux ministère, ben, j'ai été confrontée du fait que le poste n'ait pas pu être adapté. Donc, suite à des contraintes matérielles et à l'impossibilité d'adapter le poste de travail, eh ben, j'ai pas pu être prise.
Mais il est bien que vous précisiez quelles contraintes, justement, parce que on est au sein d'un ministère et ces contraintes, ouais, moi, me paraissent totalement, c'est totalement, oui, ubuesque. Ouais, la salle de déjeuner, les toilettes.
Oui, on était sur, en fait, c'était sur une caserne qui dépendait du ministère et en fait, les toilettes n'étaient pas accessibles, le bureau était difficilement accessible, mais c'était faisable. Et après, la salle pour le repas n'était pas en sous-sol. Donc, en fait, ce qui m'empêchait justement de pouvoir aller déjeuner avec mes collègues. Mais lorsque, en fait, j'ai fait l'entretien, on avait échangé avec le colonel de la DRH et tout s'était très, très bien passé. On avait trouvé, là, par rapport au déjeuner, il y avait une salle de repos, donc on s'était mis d'accord sur le fait que je puisse aller déjeuner au sein de cette salle de repos. Au niveau des toilettes, on avait trouvé quelques solutions. Et finalement, l'accord de principe qui avait eu lieu n'a pas abouti à la signature du contrat.
Et comment, Ayette, expliquez-vous que dans le cabinet d'avocat dans lequel vous travaillez aujourd'hui, eh bien, toutes les conditions soient réunies par rapport à un ministère?
Je pense que c'est la volonté de personnes qui ont réellement pris conscience que aujourd'hui la société doit être inclusive et qu'on ne doit pas se retrouver avec des gens qui restent sur le bas-côté. Et quand on a des personnes qui sont sensibilisées au handicap, comme c'est le cas au sein de ce cabinet et comme c'est le cas au sein de mon emploi, en tout cas, parce que je côtoie de nombreuses personnes. Et voilà, quand les personnes sont sensibilisées et ont conscience, en fait, du handicap, le handicap n'apparaît plus comme quelque chose qui fait peur, mais plutôt comme, je dirais pas une banalité, mais comme un détail en plus. Mon fauteuil est un détail en plus. Il n'est plus une contrainte au fait que je puisse travailler de manière normale, entre parenthèses. Je pense que c'est la volonté de nombreuses personnes bienveillantes qui fait avancer les choses.
Vous êtes très nombreux et nombreuses à appeler aujourd'hui au Standard Europe 1. J'ai une dernière question à vous poser, Ayette. La semaine du handicap au travail traite aussi des années des femmes en situation, cette année, des femmes en situation de handicap face à l'emploi. Est-ce que vous avez l'impression d'une double peine, en fait, lorsqu'on est handicapé et qu'on est une femme?
Mais je pense, je pense que c'est pas forcément la double peine, mais déjà je pense que le fait d'être une personne en situation de handicap, ça ajoute de la difficulté, donc ça ajoute un handicap au handicap. C'est-à-dire que on se bat tous pour nos droits, handicapés ou valides, quels qu'ils soient. Oui. Mais le fait d'avoir un handicap, le combat prend une autre dimension. Il prend une dimension encore plus importante. Parce que comme on est certes 2,5 millions, comme vous avez pu le dire, mais on est très peu représenté au sein de la société, que ce soit à la télé, que ce soit dans les entreprises, que ce soit un peu partout en fait. Et donc ça veut dire qu'on doit se battre deux fois plus pour pouvoir faire valoir nos droits. Et je pense que être une femme n'est pas forcément une double peine, mais je pense que l'handicap dans sa globalité doit continuer à être vu et on doit continuer de nous voir partout pour que ça devienne quelque chose de normal, qu'on puisse enfin rendre les endroits accessibles, qu'on puisse enfin, parce que si les endroits sont accessibles, on peut accéder à l'emploi de manière plus facile.
En tout cas, il faut sans doute se battre, comme vous le dites, deux fois plus lorsqu'on est une femme. En tout cas, merci Ayette pour votre appel et votre témoignage. Dans quelques instants, nous serons avec Véronique. Elle a été accompagnée par l'ADAPT pour trouver un emploi.
Europe 1. Votre lieu de travail et la vie de votre entreprise sont-elles adaptées à une personne handicapée? Comment ça se passe pour vous? Venez nous raconter, on vous écoute au 3921. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous vous écoutons au 3921. Nous parlons du handicap au travail. À quoi êtes-vous confronté? Venez nous raconter et réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous avons eu Ayette au 3921 qui nous expliquait que dans son cabinet d'avocat aujourd'hui, tout était adapté pour que son emploi se déroule de la meilleure manière qui soit. Nous sommes maintenant avec Véronique. Bonjour Véronique, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous?
Ça va, merci.
Alors Véronique, racontez-moi en fait, vous souffrez de quel handicap?
Eh bien en fait, je souffre d'un handicap au départ, je suis plus lente et en fait, ça joue sur mon psychique et chaque nouvelle situation me met en situation de stress. Par exemple, lorsqu'il s'agit de nouvelles tâches au travail ou des fois de nouveaux personnels, et puis voilà.
Vous êtes sujette quoi, à des angoisses dès que vous avez une nouvelle mission ?
Voilà, des angoisses et de la peur de ne pas être comprise par mes collègues.
D'accord. Et comment ça se passe alors concrètement ? Vous arrivez tout de même à trouver du travail ?
Eh bien, avant d'intégrer le travail où je suis actuellement, j'ai fait divers stages et à chaque fois on me reprochait ma lenteur et on me préconisait de trouver un travail entre guillemets adapté.
Mmh. Vous travaillez dans quel domaine, Véronique ?
Dans la restauration, dans un lycée.
D'accord. Et lorsque vous dites que vous avez fait des stages, en fait, c'était dans la restauration, dans les lycées déjà ou...
Un petit peu partout, dans le secteur privé. Et c'est surtout dans le secteur privé que ça s'avérait difficile.
Mmh. Alors, justement, quand avez-vous été reconnue travailleuse handicapée ?
En 2000.
En 2000. Et oui. Comment et par qui vous avez été accompagnée à partir de ce moment-là ?
Eh bien, en fait, bon, avant, j'ai suivi une scolarité classique. Mmh. Et puis, j'ai fait la connaissance de l'organisme Emploi Accompagné dans le cadre de la semaine pour l'emploi des travailleurs handicapés.
Ouais. Et finalement, en fait, quelles difficultés vous avez l'impression de rencontrer aujourd'hui lorsque vous vous confrontez au monde du travail ?
Aujourd'hui, bon, j'en rencontre plus spécialement. Ça s'est atténué avec le temps et l'équipe me laisse plus d'autonomie et m'a accordé la confiance.
Que faites-vous aujourd'hui justement ? Parce que vous ne me l'avez pas dit encore, vous avez intégré une équipe dans un lycée ?
Oui, je suis agent polyvalent de restauration. Je touche un peu à toutes les tâches, aussi bien les rubriques, préparation des desserts et la distribution des repas où j'aime beaucoup le contact avec la clientèle.
D'accord. Et alors, comment ça se passe ? Parce que là, quand vous me l'expliquez, ça a l'air de bien se passer. En fait,
oui.
L'équipe, le fait que votre équipe est bien intégrée, le fait que vous ayez certaines lenteurs, comme vous les décrivez, ça a dû être très important pour vous, l'entourage, cette équipe qui accepte tout ça.
Oui, mais je suis tombée sur une équipe très compréhensive.
Mmh. Mais vous savez aujourd'hui, donc vous avez la chance de savoir que ça existe, des gens très compréhensifs et une équipe qui prend conscience que tout ça vous arrive et qu'ils vous laissent aller à votre rythme. Vous le prenez comment ça, comme une chance ?
Ah, je le prends pour une chance et ça a permis de me sentir capable, de voir que j'étais capable, mais avec un peu plus de temps.
Mmh.
Et aujourd'hui, je me sens complètement épanouie.
Ben justement, ça ne devrait pas être une chance. Ça ne devrait pas être une chance pour les autres. Hein, je parle parce que vous en avez. Mais vous comprenez pourquoi je vous pose toutes ces questions ? Parce que normalement, une équipe devrait prendre conscience justement de ce qui vous arrive et être. Toutes les équipes devraient ressembler à celles qui vous accueillent aujourd'hui, en tout cas qui travaillent avec vous aujourd'hui, pas celles qui vous accueillent parce que en plus vous devez faire votre partie de travail, celle qui est la vôtre. Est-ce que vous pensez que les employeurs ont toujours la bonne attitude face aux salariés en situation de handicap parce que vous avez dû en voir ?
Je ne saurais pas trop quoi vous répondre. Ça dépend dans quelle entreprise.
Est-ce que vous vous êtes senti parfois mis de côté ou rejeté par des employeurs qui clairement ne voulaient pas faire travailler une personne qui présentait un handicap ?
Ben, je me sentais quelque part incomprise.
Incomprise.
Mmh. Oui, parce que tout le monde n'a pas forcément la même vision du handicap.
Mmh. Oui. Bon, et puis on va finir sur cette bonne note positive aujourd'hui.
Et oui,
ça se passe bien.
Oui, je dirais que tout est bien, qu'il finit bien.
Mais c'est pas fini encore.
Quel âge avez-vous ?
Voilà. J'ai même oublié de vous demander quel âge vous aviez. 37 ans. Et vous êtes en pleine force de l'âge, et donc ça va continuer. Il y a aucune raison que ça change dans cette équipe-là.
D'accord.
Oui. Je vous embrasse, Véronique, et passez une bonne journée. Et merci pour votre témoignage à l'antenne d'Europe 1.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Et il y a Dominique qui témoigne, qui nous a appelé au 39-21. Dominique, 58 ans, je suis travailleur handicapé, diabétique dans une entreprise adaptée en Seine-et-Marne. À l'embauche, mon handicap a été respecté. Je travaillais le matin pendant 4 ans. Depuis, j'ai fait un AVC. Mon handicap est devenu donc plus important. Je suis aujourd'hui en arrêt.
Dans un instant, nous allons accueillir Nathalie Paris. Elle est directrice de l'ADAPT, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées dans le Rhône. Et elle va nous apporter ses éclairages sur la situation de ces personnes handicapés qui cherchent du travail.
Europe 1.
Vous êtes en situation de handicap, rencontrez-vous des obstacles sur votre lieu de travail, vous témoignez au 39-21, 50 centimes la minute et vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes en situation de handicap et travailler relève-t-il d'un véritable défi dans votre entreprise? Êtes-vous confronté au quotidien à des discriminations, à des problèmes divers? Olivier Delacroix vous écoute, vous composez le 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Nathalie Paris, directrice de l'ADAPT Rhône, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Bonjour madame, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Cette semaine, c'est la 22e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a encore un manque évident d'accessibilité à l'emploi pour les personnes handicapées. Pourquoi, à votre avis ?
Alors effectivement, comme vous l'avez dit, les personnes en situation de handicap sont deux fois plus au chômage que les autres dits valides. Pour autant, il y a quand même des choses qui bougent dans notre société. La loi de 2005 a permis beaucoup d'avancées, notamment du côté des entreprises, parce que cette loi a durci l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et puis aussi parce que de plus en plus, notre société va vers plus d'inclusion, déjà plus d'inclusion à l'école. Les parents d'enfants en situation de handicap eux-mêmes se posent la question du devenir professionnel de leurs enfants et eux-mêmes sont collaborateurs dans des entreprises et font bouger ce sujet dans les entreprises. Pour autant, il y a encore 8% des entreprises assujetties à l'obligation d'emploi qui n'embauchent aucune personne en situation de handicap.
Et justement, ces entreprises qui normalement devraient employer ces personnes handicapées, est-ce qu'elles prennent des amendes, est-ce qu'elles sont réprimandées quelque part, enfin est-ce qu'on leur dit quelque chose?
Alors, on n'appelle pas cela une amende, on appelle cela une contribution donc à l'AGFIP, qui est l'organisme qui collecte ces sommes des entreprises qui n'ont pas leur quota de personnes handicapées.
Ça
qui
se traduit
je le
par
rappelle.
Quoi, en fait ça se traduit par, je n'embauche pas autant de personnes handicapées qu'il faut, donc je paye une contribution.
C'est ça, ce sont les entreprises de plus de 20 salariés, donc qui font chaque année leur déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et qui effectivement, lorsqu'elles n'ont pas ce quota des 6%, doivent payer une contribution.
Est-ce que vous trouvez ça normal, Nathalie Paris, ça ?
Malheureusement, on est obligé d'en passer par là pour que les entreprises bougent. Donc certaines le font pour des raisons effectivement pécuniaires. Ouais. Fort heureusement, on se rend compte que la plupart des entreprises qui ont moins de 20 salariés, donc qui ne sont pas assujetties à cette loi, sont souvent celles qui embauchent le plus de travailleurs handicapés et qui font le plus de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
Et alors, comment faire pour que ces entreprises de plus de 20 salariés soient plus spontanées dans l'idée de d'embaucher et d'intégrer des personnes handicapées?
Alors, il y a certainement plusieurs solutions. La première, je pense que c'est d'abord une solution humaine dans les représentations qu'ont les personnes en général, parce que derrière les entreprises, il y a des personnes, il y a des chefs d'entreprise qui sont des êtres humains, et donc il faut déjà faire bouger les mentalités en France pour que ce sujet ne soit plus un sujet qui fait peur. Mmh. Et donc se dire qu'on embauche non pas une personne handicapée, mais des compétences. Donc,
On entendait Véronique tout à l'heure, et vous voyez, on avait l'exemple type d'une femme de 37 ans qui aujourd'hui, après, on l'a entendu, avoir vécu certains échecs, était enfin bien dans sa vie et dans une équipe qui semblait complètement s'adapter à elle. Et elle, bien évidemment, ça faisait son bonheur. Il est là le problème, il est dans les mentalités.
Alors, ce qu'a dit Véronique, elle a été accompagnée par un service d'emploi accompagné, en l'occurrence de la DAT. Service d'emploi accompagné, ce sont des professionnels qui sont un tiers, qui accompagnent et l'entreprise et la personne, parce que souvent l'entreprise, c'est pas toujours une mauvaise volonté, mais c'est qu'elle ne sait pas comment faire. Et les services d'emploi accompagné permettent à la fois d'aider la personne à trouver les moyens de compensation de son handicap et aider l'entreprise aussi à former une équipe sur comment on accueille une personne, comment on est capable d'intégrer sa différence dans le collectif de travail. Et donc, ces services d'emploi accompagnés qui sont aujourd'hui encore pas assez nombreux, pas assez quantitativement importants en France, mais qui ont le mérite d'exister de par la loi, permettront certainement dans les années qui viennent développer davantage cette question de l'accompagnement et des personnes et des entreprises, parce que c'est vraiment un travail qu'il faut faire sur ces deux pieds.
Nathalie Paris, je rappelle que vous êtes directrice de l'ADAPT Rhône, l'association pour l'insertion.
Métropole de Lyon. Ouais.
la métropole de Lyon, une grande métropole, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées dans le Rhône, en fait, et pour la métropole de Lyon. Vous restez en ligne avec nous. On va continuer cette émission et accueillir René. Son fils est handicapé. Il a eu beaucoup de mal, justement, à trouver du travail. Et vous pourrez peut-être nous apporter quelques éclairages quant à la situation du fils de René.
Europe 1. Vous êtes en situation de handicap et vous travaillez. Comment ça se passe dans votre entreprise? On a envie de vous entendre au 3921 et nous vous lisons. Vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous êtes en situation de handicap et vous travaillez. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Olivier Delacroix vous attend au 3921.
Et nous sommes toujours en ligne avec Nathalie Paris de l'ADAPT Rhône, Lyon, grande agglomération. Et nous sommes toujours, maintenant en ligne avec René. Bonjour René, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, René?
Alors moi, je vous appelle de Limoges.
Oui.
Et moi, je suis papa de jumeaux en situation de handicap.
D'accord. Alors, quel âge ont-ils ces jumeaux aujourd'hui?
Ces jumeaux ont 35 ans.
Oui.
Et donc, Sébastien, lui, est dans une maison d'accueil. Par contre, Mathieu, lui, travaille.
Et ils souffrent tous les deux de troubles?
Oui. Sébastien est apparenté autiste. Quant à Mathieu, eh bien, il a eu un retard à la naissance et il a beaucoup de difficultés pour dialoguer, pour s'exprimer. C'est pour ça qu'il n'est pas présent aujourd'hui et que je le représente.
D'accord. Comment se sont passées ces premières expériences professionnelles?
Alors voilà, en gros, brièvement, Mathieu a pu avoir un primaire. Mathieu et Sébastien ont pu suivre un primaire, mais ensuite, donc, Mathieu, lui, a intégré ce qu'on appelle un IME, un institut médico-éducatif.
Ouais.
Bon. Et à l'âge de 18 ans, pour nous, ça a été le vide. C'est-à-dire que rien ne se dessinait, on ne voyait rien pour Mathieu. On était très inquiets. On voulait que Mathieu puisse quand même intégrer une structure, travailler. Oui. Alors, il a fait quelques stages dans des ESAT qui sont, à ce moment-là, ça s'appelait des CAT.
Oui.
Très, très bref. Hein. Bon, ça s'est passé normalement, mais Mathieu était peut-être pas très intéressé par ce type de travail. Et si vous voulez, ensuite, nous, en tant que parents, on a réussi à obtenir un stage dans une première maison de retraite sur Limoges,
ouais,
pendant une année scolaire. Ça s'est bien déroulé, mais ça n'a pas débouché sur un emploi. Il travaillait donc dans le service restauration. Et ensuite, il a intégré une résidence privée pour personnes âgées pendant 2 années. Mmh. Et là, ça se passait assez bien. Il s'est formé comme ça. Et malheureusement, au bout des 2 ans, on pensait qu'un emploi à mi-temps aurait pu se créer pour lui, mais bon, c'était un peu compliqué. Il y avait un conseil d'administration qui n'a pas validé cet emploi.
Oui.
Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré, un petit peu par le biais de son frère jumeau Sébastien, la page 87 qui nous a parlé de l'emploi accompagné. Mmh. Ils nous ont dit, bon, écoutez, Mathieu pourrait faire un stage de une dizaine de jours dans un lycée. Mmh. Alors nous, on n'y croyait plus beaucoup. On s'est dit, Mathieu a déjà fait des expériences, on voit que ça débouche sur rien, et pourtant il s'accroche bien. Et on dit, écoutez, allons-y. Hein. Donc Mathieu a démarré ce stage dans ce lycée, et évidemment, il avait acquis une certaine expérience. l'emploi accompagné était là avec une personne qui faisait la liaison entre le lycée donc et Mathieu. Et au bout des 8 jours, on nous a annoncé que bon, ben Mathieu pourra obtenir un CDD. Un CDD d'un an.
Ce qui a dû être une nouvelle extraordinaire pour vous.
Oui.
Mais
oui.
J'ai bien évidemment envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait que, voilà, dans ce lycée, au bout de 10 jours, on a proposé un CDD à Mathieu, alors qu'avant, oui, là où ça s'est très bien passé, où il y avait, oui, des choses possibles, ça ne s'est pas passé, à votre avis?
Alors, moi, je pense que Mathieu, bon, au niveau professionnel, il s'est vraiment... les stages, que on va appeler ça des stages, puisqu'il n'avait jamais été rémunéré, ça lui, il a appris le métier. Bon, il s'occupe de mettre en place les repas dans un lycée. Oui. Hein. Donc, dans la maison, dans les deux maisons de retraite précédemment, je pense que il s'est formé et on va dire que le personnel l'a très bien aidé.
Donc, vous voulez dire, c'est qu'il s'est amélioré finalement au gré de ses stages. Oui. Il a progressé.
Oui. Et
en termes de communication.
Voilà. Oui, tout à fait. Il s'est accroché. Et ensuite, lorsque nous avons rencontré l'emploi accompagné de la page 87.
Ouais.
Et donc, et la région, puisque c'était la région Limousin à ce moment-là, eh bien, il avait ses acquis. Et là, bon, grâce à cette structure d'emploi accompagné, je pense que ça a été le déclencheur.
Mmh. René, et puis voilà. René, malheureusement, oui, vous êtes nombreux à nous appeler aujourd'hui et je m'en excuse par avance. J'ai une dernière question à vous poser.
Oui.
En fait, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que on pourrait améliorer la situation de ces jeunes? Est-ce que, comme le soulignait Nathalie Paris, est-ce que c'est dans la mentalité que tout se joue?
Écoutez, oui, et moi je vous dirais une petite chose, hein, puisque c'est limité dans le temps. Là, imaginez que l'emploi de Mathieu peut être reproductible dans tous les lycées et, oui, collèges de France. Mmh. Vous vous rendez compte? On pourrait créer un emploi dans chaque lycée, dans chaque collège, à condition, évidemment, toutes les personnes en situation de handicap ne le peuvent pas, mais il y a un bon nombre de personnes qui le peuvent.
Mmh.
Et donc c'est un gisement d'emploi formidable.
Oui, hein,
et c'est reproductible.
Bon, c'est reproductible et sans doute à la clé la joie pour ces jeunes qui cherchent travail avec ce handicap et puis ses parents qui s'inquiètent.
Mathieu est totalement épanoui, c'est formidable.
Eh ben écoutez, vous l'embrasserez pour nous, vous le féliciterez, hein, et puis merci René pour votre appel et votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Nous allons accueillir maintenant Jean-Philippe, il est tétraplégique et a lancé une plateforme de financement participatif dédiée aux projets professionnels portés par des personnes handicapées.
On parle du handicap au travail, comment ça se passe dans votre entreprise avec vos collègues de travail? Venez nous raconter au 3921. Il n'est pas toujours évident de faire accepter son handicap à ses collègues, à ses supérieurs. Comment ça se passe sur votre lieu de travail? Vous témoignez au 3921, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant avec Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Jean-Philippe?
J'ai 50 ans et je vous appelle de l'Aveyron, Rodez.
Rodez, vous êtes bien là-bas, hein?
Oui, on est pas mal.
Au calme. Vous voyez, là, juste au moment où je vous parle, j'aimerais bien être à côté de vous à Rodez. Au calme.
Écoutez, vous serez le bienvenu.
Eh bien, je vous remercie.
À l'Aveyron.
Bon, très bien, merci Jean-Philippe. Vous êtes tétraplégique et vous avez créé une plateforme de financement participatif entièrement dédiée aux projets professionnels portés par des personnes handicapées. Les handi-entrepreneurs, vous sentiez qu'il y avait un manque, un besoin?
Tout à fait, je sentais qu'il y avait un manque parce que je suis moi-même omnipreneur, j'étais entrepreneur avant mon accident que j'ai eu en 2006. Et de 2006 à 2015, date à laquelle j'ai fondé une entreprise, je me suis confronté principalement au manque de financement de nos entreprises et au niveau des banques notamment, au niveau des emprunts. C'est ce que je dis toujours, c'est une discrimination qui ne dit pas son nom, puisqu'il y a une convention qui s'appelle ARF qui permet personnes invalides, personnes malades, personnes handicapées d'emprunter, mais à des taux d'assurance et des surprises d'assurance qui sont invraisemblables.
Mmh. C'est confronté à toutes ces difficultés que vous avez eu cette impulsion de créer les handipreneurs?
Tout à fait, ça, et puis le regard des gens aussi, je dirais, puisque quand on vous connaît en tant que chef d'entreprise, on vous regarde normalement, et puis vous avez votre accident, comme moi, et non, après vous revenez aux manettes de vos entreprises, et puis on vous regarde un peu différemment, comme si vous étiez amoindri intellectuellement. Ce regard m'a vraiment choqué. Mm-hmm. Je me suis dit que c'était pas possible qu'une il fallait qu'on montre qu'on était aussi capable qu'avant dans le parcours qu'on a tous. Et donc, fort de ce constat, j'ai regardé ce qui commençait à se faire au niveau des entreprises et je me suis aperçu qu'on était 75 000 entrepreneurs en France.
Vous dites que la grande précarité et la paupérisation de la population du handicap s'est accélérée ces trois dernières années. Pourquoi, selon vous, et par quoi cela se traduit-il à vos yeux ?
Alors déjà, tout l'ensemble de la population se paupérise en ce moment. C'est vrai qu'on a atteint le bachelier de chômeur. Voilà, mais il y a au jour d'aujourd'hui, si on prend les restes à charge des handicapés, notamment à 200, 300 euros près, on s'aperçoit qu'il y a quasiment 1 million de personnes handicapées qui sont sous le seuil de pauvreté. Oui. La revalorisation qui a été entreprise par le gouvernement Philippe est une bonne chose, elle va dans la bonne voie, mais elle reste en dessous du seuil de pauvreté. Oui. Donc ce n'est pas suffisant, il faut aller aujourd'hui plus loin. Il faut véritablement qu'on soit vraiment pris en considération et qu'on sache que les choses sont difficile comme pour tout le monde, mais beaucoup plus difficile pour nous.
Lorsque je vous entends parler de « il faudrait que nous soyons pris en considération », c'est vraiment quelque chose dont vous souffrez, ce sentiment de finalement d'être laissé pour compte, laissé de côté?
Oui, c'est quelque chose dont on souffre tous. Je veux dire, on est là, dans notre coin, à attendre que les choses arrivent et qu'elles soient véritablement prises en compte. Mais ce n'est pas le cas. Je veux dire, tout le monde connaît les chiffres aujourd'hui. Mais voilà, on met un voile sur ses yeux parce que tous ces chiffres sont connus. Hein, le fait que nous soyons 1 million aussi sans emploi, que notre taux de progression, de chômage progresse 2 fois plus vite que les personnes valides. Tous ces chiffres sont connus aujourd'hui et tout le monde continue à fermer les yeux. Voilà, j'accuse personne, mais c'est l'ensemble de la société qui continue à fermer les yeux sur ce chiffre-là. Et ça, je trouve ça inacceptable. C'est un peu mon coup de gueule du jour, en même temps qu'on lance les entrepreneurs, mais c'est vrai que c'est pas acceptable. On peut pas accepter une société telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui et laisser quasiment autant de personnes sur le bord de la route.
Mais vous l'avez souligné, le gouvernement actuel a pris quelques décisions notables allant dans ce sens, qui sont bien évidemment insuffisantes pour l'instant à vos yeux, mais on est déjà dans quelque chose qui bouge, non ?
Oui, complètement. La ministre Sophie Cluzel a pris le taureau par les cornes. On peut saluer le fait qu'on ait une ministre qui sait de quoi elle parle. Mais elle a pris le taureau par les cornes, mais cela reste insuffisant. Il faut vraiment aller plus loin aujourd'hui. Si vous voulez, quand vous réalignez l'allocation du handicapé, quand on décide de la réévaluer, comment la réévaluer sans la mener à minima au seuil de pauvreté, qui est de 1026 euros au jour d'aujourd'hui.
Ouais, il est vrai que en fait, on sait que déjà avec 1026 euros, il est difficile de s'en sortir, mais que bon nombre d'handicapés, de personnes handicapées, touche beaucoup moins que ce seuil, enfin en tout cas que cette somme-là. Merci Jean-Philippe pour votre appel et votre témoignage et pour les handipreneurs. Dans quelques instants, nous accueillerons Jean-Paul qui est aveugle depuis l'enfance et qui est tout de même rentré dans la fonction publique.
Valérie témoigne également au 39-21. Valérie, à 51 ans, je suis reconnue travailleuse polyhandicapée. Je travaille dans la fonction publique. Il a fallu du temps pour me faire accepter par mes collègues. J'étais timide. J'ai dû me battre. Aujourd'hui, ça va mieux.
Europe 1.
Quelles barrières ou handicaps restent-ils dans le monde du travail ? Avez-vous été confronté à des obstacles ? Comment ça se passe dans votre entreprise ? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons du handicap au travail. À quoi êtes-vous confronté ?
Et nous accueillons maintenant Jean-Paul au 39-21. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour. Voilà, je voudrais vous apporter plutôt un témoignage pour vous dire que on peut y arriver.
Allez-y.
On peut y arriver. Moi j'ai 66 ans aujourd'hui.
Oui.
Et une belle aventure a commencé en 1960. J'avais 8 ans, oui, 7 ans et demi, je suis totalement aveugle, hein, vraiment totalement.
D'accord.
Et j'étais dans un établissement tenu par une congrégation religieuse. Et la directrice, quand elle détectait un talent, elle n'avait de cesse de le faire progresser. Alors elle organisait des classes de la 6e à la 3e avec l'aide du Centre National de Téléenseignement, enfin qui s'appelle maintenant Centre d'Enseignement à Distance. Et puis elle avait trouvé un accord avec le proviseur d'un lycée voisin. Et je me suis retrouvé en 1967 en classe de seconde, puis de première, puis de terminale, avec d'autres élèves voyants. Bon, ça n'a pas été forcément toujours simple, mais je m'accrochais parce que j'avais une famille qui avait connu de grosses difficultés, et je me disais, tiens, si tu réussis, tu pourras les aider, et bon. Et j'avais décidé de faire du droit, une licence en droit, que j'ai obtenue en 1974, et je suis entré dans la fonction publique d'État, par concours, j'insiste beaucoup là-dessus.
Oui.
J'ai été attaché d'administration dans une grande administration d'État de ma ville, Strasbourg.
Et on était en quelle année, là,
Jean-Paul ? En 1975.
Mm-hmm. En 1975.
Oui, oui.
Je ne vous pose pas cette question par hasard. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, en 2018, les conditions d'admission, vos conditions d'admission ont été différentes ?
Peut-être, je ne sais pas.
Mmh. Et justement, je me retourne vers Nathalie Paris, parce que mon sentiment, Nathalie Paris, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises comptant plus de 20 employés sont pointées du doigt, alors que j'ai l'impression que les administrations ne font pas mieux. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Alors, elles font un tout petit peu mieux, mais...
Un tout petit peu ? Ça veut dire quoi ?
elles sont en progrès.
Oui.
Simplement, ce qui s'est passé dans la fonction publique, c'est qu'il y a eu beaucoup de reconnaissance de personnes qui étaient déjà dans la fonction publique, pour
D'accord.
lesquelles il y a eu reconnaissance de leur situation de handicap. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que dans la fonction publique, mais comme dans les entreprises d'ailleurs, il y a de grandes inégalités d'un territoire à l'autre ou d'une fonction publique à l'autre. Les fonctions publiques territoriales sont plutôt à un bon taux, alors que la fonction publique hospitalière, par exemple, a un taux plus bas.
Mmh.
Donc, c'est variable. Et là aussi, c'est parfois une question de personne. L'intégration dans un service va beaucoup varier suivant le responsable du service et la façon dont il accueille la question de la situation de handicap.
Mmh.
Et puis, dans la fonction publique, donc, il y a le FIPHFP qui finance les aménagements de poste. Et c'est vrai que parfois, pour certaines personnes, c'est un petit peu un parcours du combattant parce que leur responsable ne connaît pas forcément les circuits administratifs pour leur permettre d'avoir la compensation de leur handicap, qu'elle soit technique ou humaine.
Mais vous voyez, lorsque j'écoutais René tout à l'heure et que j'écoute Jean-Paul maintenant,
oui.
on a l'impression, lorsque René parlait de son fils tout à l'heure, et moi, je pense naturellement à ma ville, je viens d'Évreux, et je sais que
oui.
la mairie d'Évreux, traditionnellement, a toujours fait attention dans les espaces
oui.
verts, dans les lycées, à favoriser l'emploi des personnes handicapées. Et on n'a pas l'impression que c'est partout pareil. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ?
Alors, c'est ce que je dis, c'est inégal. Par contre, ce qui nous paraît intéressant aujourd'hui à la DAPT, alors je tiens à dire que la DAPT, c'est national, hein, ce n'est pas qu'à Lyon, mais ce qu'on défend à la DAPT, c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire que ce matin, nous avions M. Toubon qui introduisait la semaine pour l'emploi, défenseur des droits, qui montrait des statistiques, et également une personne de la fonction publique qui disait que les personnes en situation de handicap accèdent beaucoup moins, par exemple, aux catégories A de la fonction publique, à effectuer équivalent. Donc, de même que le sujet de cette année, ce sont les femmes et handicap, des femmes en situation de handicap qui ont un poste de cadre, ce n'est que 1% en France aujourd'hui, alors que c'est 14% pour la population en général.
Oui.
Les hommes en situation de handicap, c'est 10%, donc ça reste un taux inférieur à 20%, qui est le nombre d'hommes cadres dans la société en général. Donc, il y a quand même une inéquité quant à l'accès à des postes à responsabilité. Et l'idée, c'est que les personnes en situation de handicap ne soient pas que dans des postes, on va dire...
Des petits postes. En tout cas, en vous écoutant, Nathalie Paris, pardonnez-moi, mais je suis malheureusement obligé de vous interrompre puisqu'on arrive à la fin de cette émission. En tout cas, les choses semblent évoluer. C'est malheureusement, comme je vous le disais, la fin de cette émission. Et je vous remercie mille fois pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes directrice de l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de la ville de Lyon, en tout cas de la mégalopole ou métropole de Lyon. C'est une bien grande ville. Merci en tout cas Nathalie Paris. Merci aussi à votre pour votre témoignage Jean-Paul. Merci aussi à Ayette, à Véronique, à René et à Jean-Philippe de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. On a vu combien les personnes en situation de handicap subissent encore une discrimination dans l'emploi, mais petit à petit les entreprises finalement semblent progresser et des initiatives comme celle de Jean-Philippe avec les handipreneurs semble faire bouger les lignes. Il existe, je vous le rappelle, des associations comme l'ADAPT de Nathalie Paris, qu'on vient d'entendre, pour accompagner les personnes handicapées, ou encore l'APAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés. Et dans chaque département, de toute façon, vous pouvez vous tourner vers des associations, car il y en a beaucoup. Vous pouvez bien évidemment, comme vous l'avez fait durant toute cette émission, continuer à en discuter sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, sur cette page Facebook,
oui,
on discute beaucoup.
Mais nous sommes très heureux de voir de plus en plus nombreux sur le groupe de l'émission, hein, sur la page Facebook d'Europe 1. Le cap des 3000 membres a été dépassé. Vous êtes donc 3074 à nous être fidèles, à nous suivre. Merci beaucoup de votre confiance et de votre fidélité.
J'étais ravi de passer cette heure sur Europe 1. C'était bien. Ouais, vraiment. Et demain, voilà, nous serons ensemble demain à partir de 15h pour parler de l'enfance maltraitée dans le cadre de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Si vous avez été maltraité lorsque vous étiez enfant, si quelqu'un de votre entourage a été maltraité pendant son enfance ou a maltraité ses enfants, si vous avez été témoin de ces choses-là, vous pouvez dès maintenant nous appeler au 3921 pour nous parler de votre histoire. J'étais ravi de passer cette heure avec vous, ma chère Ambine.
Également, à demain.
Et je vous laisse maintenant avec mon amie Laurence Boccolini et nous allons jouer. Et ce matin aujourd'hui, avec qui, mon ami?
Avec Amir. Enfin, avec
you.
Camille.
Non, pas Camille.
Amir.
Amir.
C'est l'Eurovision.
Oui, oui, ça
joue
bien. Moi, je chante très mal, vous savez.
C'est pas exactement ça, mais...
Bon, ben, bonne émission, les filles. Vous allez chanter encore?
Bah, écoute, le pauvre, oui, je pense que oui.
Ah, le pauvre. Bon, bonne émission, les filles.
Merci,
à demain.
Merci, à demain.